C'est une conquête de tous les jours. Pas dire du tout que c'est quelque chose. Et enfin, c'est là où on a l'auto-éducation. L'homme s'éduque lui-même dans sa capacité d'aimer. Et on comprend très bien que c'est dans sa capacité d'aimer que l'homme va pouvoir être de plus en plus une personne. C'est dans cette capacité d'aimer qu'il se découvre lui-même. Oui. Et cet amour d'amitié est donc. Alors, on va regarder maintenant tout ce qu'il présuppose. Hein. L'amour d'amitié porte donc sur le bien. L'amour d'amitié va impliquer une intention de vie. Je regarde mon bien comme ma fin. Le bien, la personne humaine que j'aime comme mon bien, c'est ma fin. Et je la choisis. Il y a le choix. Je choisis cette personne-là. Donc, l'intention de vie, alors ce qui serait très important, c'est de comprendre le passage de l'amour spirituel à l'intention. Le passage du bien qui m'attire et de considérer que ce bien est ma fin. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis cela? C'est-à-dire je mobilise toutes mes forces pour conquérir ce bien. C'est ça le propre de la fin, la finalité. Vous voyez, le bien est au-dessus de la fin. Et le bien est source, il suscite en moi un amour. Et c'est cet amour qu'il suscite en moi qui va devenir ma fin, ce qui me finalise. Et quand je découvre qu'il me finalise, je prends tous les moyens possibles pour pouvoir l'atteindre. Et c'est pour ça que là, il y a la phase du conseil. La phase du conseil, on mettrait l'information. Savoir tous les moyens qui me permettent d'atteindre cette fin. Parce que le bien qui m'attire et qui suscite en moi un amour, je ne possède pas tout de suite. Autrement dit, il y a un écart entre l'union affective et l'union réelle. Et ça, c'est très important à comprendre. L'union affective, ça provient d'un amour. Je suis pris. Je suis saisi. Pourquoi il y a un bien qui m'attire et une autre personne qui ne m'attire pas? Mystère, ça. Je suis pris. Donc, il y a un amour. Le bien suscite un amour. Ce bien, cet amour, pour devenir réel, doit se fortifier grâce à l'intelligence. L'intelligence vient au service de l'amour. Je ne dis pas la raison, hein, l'intelligence. Et l'intelligence venant au service de l'amour permet à cet amour de s'ordonner et de tout ordonner en moi. Et c'est à ce moment-là que l'amour devient une intention de vie. Oui, c'est l'intelligence qui fortifie cet amour et qui permet de faire que ce bien devient ma fin. Et je mets tout en ordre pour essayer d'atteindre cette fin, pour l'atteindre. Non pas affectivement, mais réellement. Et c'est à partir de ce moment-là que je cherche tous les moyens capables d'atteindre cette fin. Et ceci est vrai de tout amour d'amitié. Parce que dans tout amour d'amitié, il y a quelque chose d'infini. Et donc, je peux toujours progresser. Celui qui dit « maintenant j'aime assez », ben, il tue l'amour. C'est ça qui est très curieux. L'amour avorte, il meurt. Parce que le propre de l'amour spirituel, c'est d'aimer une personne comme un absolu. Si je n'aime plus cette personne comme un absolu, je ne l'aime plus comme une personne. Et là, à ce moment-là, l'intelligence va dominer sur cet amour et va empêcher l'amour de se développer tout le temps. J'ai en moi une capacité d'aimer qui augmente tout le temps. Et cette capacité d'aimer doit garder un réalisme toujours plus grand pour faire que ce bien soit de plus en plus ma fin. C'est-à-dire me finalise de plus en plus. Et dans la mesure où il me finalise, il saisit tout en moi, il mobilise tout en moi et il unifie ma vie. Donc c'est au fond l'intention de vie qui unifie ma vie. C'est pas l'amour uniquement. Cet amour spirituel peut très bien se corrompre et devenir une velléité. beaucoup d'amour ne sont pas assez nourris par l'intelligence et tournent en velléité. C'est l'imagination qui corrompt ce premier amour et fait devenir ce premier amour en velléité. Mais ça devient un amour romantique. Et l'amour romantique ne dure pas. Ça explique une quantité de situations humaines. J'ai aimé quelqu'un, je l'aime plus. Est-ce que vous avez fait attention pour continuer de l'aimer? C'est une conquête mutuelle, constante. On doit toujours aller plus loin. On ne doit jamais s'arrêter. C'est pour ça que c'est au fond la chose la plus difficile. Et c'est ce qui exige une volonté toujours plus forte. Pas une volonté d'efficacité, une volonté d'amour. Et une volonté d'amour qui mobilise mon intelligence pour que ce soit de plus en plus l'intention de ma vie. Et que ce bien devient ma fin. Et que tous les moyens qui sont là pour conserver ce bien comme fin et pour permettre de l'acquérir de plus en plus. Et alors là, c'est toute la recherche des moyens qui me permettent d'atteindre cette fin. Et le choix des moyens pour être plus proche de cette fin. Et une fois que j'ai choisi ces moyens, je tombe dans ce qu'on appelle, au point de vue humain, la phase de l'imperium, ça c'est très important, l'impératif catégorique de Kant, vous voyez. Kant commence par là, il oublie tout ça. Non, l'imperium, le mot latin dit très bien ce que c'est. Fais ceci. C'est l'exécution. Mais il y a une exécution dans laquelle on doit entrer. Ça mobilise toute ma vie, si vous voulez. Vous voyez, ça c'est le réalisme de l'amour. L'amour va exiger de moi de réaliser certains actes pour prouver mon amour. Parce que l'amour se prouve dans un témoignage et dans une vie commune. Alors ça, c'est l'hyperium, c'est le passage à l'extérieur. Tout ça est intérieur. Et ici, avec l'hyperium, je passe à l'extérieur. C'est l'amour qui s'incarne. C'est l'amour qui se réalise dans des actes. C'est l'amour qui se réalise dans un témoignage. Il faut une force particulière pour l'hyperium. Mais les intellectuels peuvent très bien vivre tout ça, et puis lorsqu'il interviewe, vous n'avez plus rien du tout, plus personne. C'est la force de tempérament, ça. L'interviewe, c'est jette-toi à l'eau, jette-toi à l'eau. Il faut vous prendre par la peau du dos et puis jeter. C'est l'affectivité très très développée, alors ce qu'on disait ce matin à propos de l'adolescent et de l'homme adulte. Vous l'adolescent est merveilleux là-dedans. Mais ici, l'adulte, hein, plus rien. C'est là où vous voyez un homme. Est-ce qu'il est capable d'aimer jusqu'au bout? Alors ça, c'est l'imperium. L'imperium qui est alors l'application de toutes mes facultés. L'imperium est suivi par l'usage, l'application. Je m'applique, je suis attentif. Être attentif à quelqu'un, c'est justement être éveillé à ce qu'il désire, à ce qu'il est, à sa présence. C'est par là que je suis présent. Il y a des gens qui sont perpétuellement absents. Ils ont trop de préoccupations, alors ils sont absents. Ils n'ont pas de présence, et ça sent tout de suite. Il faut que ça passe, le fluide passe. Ça, c'est l'hyperium. Oui, c'est une présence. Quand il y a uniquement un amour velléitaire, quand il y a uniquement un amour romantique, alors je reste imaginativement. Mais l'hyperium ne passe pas, il n'y a pas l'usage. Et alors ça se termine par la joie de la présence. Ici, vous voyez, je souligne la joie. C'est vrai. C'est lié à l'amour d'amitié, la joie de la présence. La joie qui implique la jouissance, qui implique le plaisir, mais la joie de la présence. La présence se termine dans la joie. Bien, vous voyez que si j'analyse l'amour d'amitié, hein, tous ces moments de l'amour d'amitié sont impliqués dedans. Je vois que l'amour d'amitié mobilise tout ce que j'appelle, d'une façon traditionnelle, l'activité morale. C'est pour ça que je crois que c'est très important, à partir de Nietzsche, qui supprime le moral, de reprendre l'exigence de l'amour d'amitié. Parce que c'est à ce moment-là, dans le choix, que je comprends la responsabilité. C'est à partir du choix que je comprends la liberté. La liberté, elle est au niveau du choix, elle est au niveau aussi de l'intention. Au niveau de cet amour spirituel dans son premier moment, c'est au-delà de la liberté. Il y a quelque chose que j'accepte ou que j'accepte pas, c'est ce premier amour. Je peux l'accepter, et alors à ce moment-là, il y a une intention. Je suis libre. Comme ici, je suis libre. Et ici, je suis libre. Vous voyez que la liberté prend des modalités très différentes. Il y a la modalité au niveau de l'intention de vie. Il y a une liberté au niveau du choix. Il y a une liberté au niveau de l'impériaux. Vous voyez comment ces deux moments si importants de ma vie, le travail et l'amour d'amitié, me permettent de comprendre les deux grandes dimensions de mon développement humain et personnel. Alors si vous voulez, pour terminer, je vais faire un petit parallélisme entre ces deux moments-là. Une fois que j'ai fait l'analyse, encore une fois, je m'excuse, j'ai regardé un peu, et je crois que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est important de réfléchir sur tout ce que nous portons en nous. Alors je mets en deux parties le facheret et l'adjuret. C'est-à-dire ce que représente l'activité morale, éthique, et l'activité de la réalisation du travail. Dans l'agir, l'activité éthique, c'est l'homme. Le facheret, réalisation du travail, l'agir, l'activité éthique. Hein. Comprenez bien. De temps en temps, il faut faire des erreurs pour que le public réagisse. Pour voir si on ne dort pas. Alors, essayons de comprendre. Je vais essayer de voir les différents moments de l'activité du facheret, puis l'agir. Toute activité, je l'ai fait à partir de l'expérience du travail et à partir de l'expérience de l'amour d'amitié. Bon, ayant fait ces deux analyses, je peux maintenant essayer de comprendre comment tout acte de l'activité du facheret va impliquer certains moments de développement. Et tout acte de l'activité de l'agir va impliquer certains développements. Je regarde d'abord le facheret. On va retrouver ce que j'ai dit tout à l'heure. L'expérience artistique. Celle-là n'existe pas toujours dans l'expérience du travail, mais elle est quand même impliquée. Deuxièmement, le point de vue de l'inspiration. Troisièmement, le point de vue du choix créateur. Vous voyez là où se situe Nietzsche, hein? Le choix créateur, la créativité. Puis vous avez, alors le choix créateur, comme on l'a dit, porte sur l'outil, il n'est pas important ici, je simplifie, je porte les choses. Puis vous avez le point de vue du travail. Vous avez, à l'intérieur du travail, je mettrai un cinquième moment, le jugement critique que je porte sur mon travail. Mon travail, en tant qu'un travail, je suis toujours capable de voir s'il est bien conforme à ce que je dois faire, conforme au modèle que j'ai choisi dans mon choix créateur, le modèle. Le jugement critique, puis vous avez l'heure. Voilà les six moments, je crois, qui sont impliqués dans l'activité du facheret. Parallèlement, dans le développement de l'agir, vous avez un premier amour spirituel. Ce n'est que dans la mesure où il y a un amour volontaire qu'il y a une activité morale. Tant qu'il n'y a pas d'amour volontaire, il n'y a pas d'activité morale. Ça, c'est évident, c'est volontaire comme un tout. Il y a un amour spirituel qui porte sur un bien personnel. Puis vous avez en second lieu l'intention. L'intention de vie se porte sur la fin. Puis vous avez le point de vue du conseil. À l'égard des moyens. Puis, vous avez le choix de ces moyens, le choix libre de ces moyens. Puis, vous avez l'impériode, fait ceci, le commandement, on se commande à soi-même. On se commande à soi-même. Puis, vous avez sixièmement, l'application. L'application, c'est-à-dire l'usage, l'usage. Et septièmement, la présence, la joie. Vous avez donc l'usage qui implique le fait d'être attentif à appliquer, à s'appliquer pour réaliser cette présence, cette union parfaite. L'union parfaite avec la fin et avec le bien-aimé. Vous voyez qu'il y a des parallélismes, c'est ça qui serait intéressant d'étudier. Puisque de fait, toutes nos activités humaines, implique un agir et un faire. J'aurais pu partir. Que représente pour vous l'activité de ce séminaire? Qu'est-ce que ça représente? Ça implique l'agir et un faire, toujours. C'est un travail que nous faisons ensemble, et puis ça implique une certaine éthique, c'est évident, une certaine éthique d'application, d'attention. Autrement, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas un minimum d'ordre, pas un minimum d'attention, on ne peut pas, ce n'est pas la peine. Alors il y a le fait, dans toutes nos activités humaines, faites le bilan ce soir, ou demain, ou après-demain, de vos activités, un examen de conscience philosophique. Un examen de conscience philosophique qui consiste à voir ce qu'il y a dans notre activité de facere et d'agere. Vous voyez que constamment, il y a des confusions d'un domaine à l'autre. C'est là où la lucidité philosophique est nécessaire. Le facere commence par le point de vue de l'expérience. Donc, c'est le domaine de la connaissance. Et l'autre commence par le domaine de l'amour. Le facere réclame une lucidité beaucoup plus grande que l'agir, qui commande à grand amour. Très important de dire ça. Pour que le facere reste humain, il réclame la lucidité. Le travailleur doit travailler dans la lucidité, autrement il travaille mal. Il doit savoir pourquoi il travaille, ce qu'on disait tout à l'heure. Quand il ne sait plus pourquoi il travaille, il ne peut plus travailler. Il devient une bête de somme. Parce que ceci est commandé. Le facere réclame la lucidité, réclame la connaissance. Vous voyez, l'amour est présent. C'est sûr, il y a un certain amour que nous avions dit. Ce n'est pas un amour qui porte sur la personne, c'est une volonté d'application au travail, en vue de l'œuvre. C'est là. Il y a un certain amour. Vous voyez bien que cet amour est un amour volontaire d'application. C'est un amour d'efficacité. C'est très vrai, il y a un amour d'efficacité. Il y a un amour de réaliser quelque chose. Il y a une volonté d'efficacité, qui est un certain amour, pour réaliser cette œuvre. Alors vous voyez qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier dans la phase de l'agir et qui n'existe pas dans facere. C'est le point de vue du conseil. C'est quand même très curieux. Et là, il y avait beaucoup de points. Le point de vue du conseil. Il n'y a pas de conseil dans l'ordre du facere. Le facere va impliquer quelque chose de beaucoup plus impératif que l'agir. Ce que saint Thomas appelle les voies déterminées de l'art. Alors qu'il n'y a pas de voie déterminée dans l'ordre de la prudence et dans l'ordre de l'agir humain. Ça, c'est toute la souplesse de l'amour. Alors là, je crois que c'est très important de comprendre ça. Parce que c'est quelque chose de très important de comprendre que le conseil est de l'ordre, vraiment, de l'ordre de l'amour. C'est le choix des moyens. Ici, les moyens, il y a bien un choix créateur. Vous allez me dire, là, il y a une phase d'information. Oui, il y a une phase d'information. C'est très bas. La phase d'information est l'analogue du conseil. Je pourrais très bien. Mais cette phase d'information est tout à fait différente. Elle s'impose d'une manière beaucoup plus impérative au choix créateur. Le choix créateur est beaucoup moins libre que le choix qui provient de l'amour. Dans le choix créateur, il y a quelque chose qui s'impose. C'est même très curieux. On ne peut pas faire autrement. Dès qu'on a essayé, on a vu, il y a des choses qui s'imposent. Et ça, c'est propre de l'activité du Thatcherel. Mais c'est très vrai chez les grands artistes. Vous voyez ça chez les grands artistes. Et vous voyez ça dans toute réalisation. Il y a quelque chose qui s'impose. Alors, il y a une phase d'information, c'est sûr. Mais dans cette phase d'information, très vite, on s'aperçoit de ce qu'il faut choisir. Et ce choix s'impose du dedans. Impérativement. C'est une chose très curieuse, du reste. Le caractère très impératif du Thatcherel, qui n'est pas moral, c'est autre chose, c'est en vue de l'efficacité du travail. Ah, vous voyez, le parallélisme entre l'imperium fait ceci et le travail. Si l'imperium diminue, vous aurez des travailleurs mous. Il y a des travailleurs mous, c'est évident.
Si vous voulez,
pour
moi, mon excuse.
Non, mais vite,
conseil,
je suis tout à fait.
Le conseil du côté de
la gym. De la gym.
Oui.
De la gym. Oui. Le conseil, vous voyez.
Je ne perçois pas bien.
Prenez, au point de vue de la jure, simple. Au fond, c'est la prudence. Hein. Je n'ai pas parlé des vertus, là, parce que je suis au niveau de l'activité, j'aime mieux prendre l'activité dans ce qu'elle a de plus brutal et de premier. Mais au fond, dans notre vie, c'est la phase de réflexion nécessaire quand nous avons une fin que nous voulons aimer. Quand nous voulons atteindre quelqu'un, un premier amour qu'on a eu. On a voulu essayer de comprendre cette personne que j'aime, comment puis-je l'atteindre, comment elle est ma fin, je voudrais. Bon, alors nous cherchons toute une phase de conseil. Et dans la vie, c'est comme ça, quand on veut prendre un collaborateur et qu'il y ait une amitié avec un collaborateur pour essayer vraiment de le convaincre. Évidemment. Alors, il y a toute une phase de moyens que nous cherchons pour l'atteindre. Vous voyez ? La personne humaine est enveloppée d'un milieu. Et nous voyons comment nous pouvons l'atteindre, cette personne. Et alors, il y a tout le point de vue. Cette personne, elle connaît quelle autre personne ? C'est son ami. Ah, par là, je vais pouvoir l'atteindre. Vous voyez ? La phase du conseil. C'est d'essayer d'atteindre cette personne, ce qui est ma fin, en choisissant tel ou tel moyen. Je peux l'atteindre par tel moyen, je peux l'atteindre par tel autre. Quel est-ce qui vaudra mieux ? La phase du conseil. Oui. Dès qu'il y a n'importe quel acte humain, comme acte humain, il y a cette espèce de recul que j'ai, qui est le point de vue beaucoup plus de l'intelligence, qui essaie de comprendre un peu. Vous voyez, on met l'intelligence au service de cette fin que je veux atteindre. Et alors, il y a le choix, ensuite, ce choix libre, de choisir tel moyen pour atteindre ma fin. Oui.
Est-ce que, si on vous donne un exemple, vous pouvez distinguer le faire et l'agir?
Oui,
pour un acte particulier.
Au contraire, c'est très important et très intéressant.
Par exemple, une ménagère a un menu à préparer, ou un plat à préparer.
Oui, l'art culinaire.
Oui, il y a un plat à
cuire. Et c'est du Thatcher, en premier. Attendez! Réaliser la cuisine, un plat préparé.
Réaliser, oui.
C'est ça.
Non. Il y a du monde ce soir, un plat à préparer.
Un plat à préparer, c'est le réaliser quand même.
L'ensemble de l'opération.
Ah, l'ensemble de l'opération.
Oui,
c'est-à-dire l'ensemble de l'opération, recevoir des personnes. Alors c'est ça fait un plat à préparer. Un plat à préparer, pour moi, c'est une œuvre à réaliser. Bon, c'est pour ça que je dis un plat à préparer, c'est une œuvre à réaliser, c'est donc. Le Thatcherel. Il s'agit de faire. Quand il s'agit d'accueillir un certain nombre de personnes, c'est autre chose, par exemple, précisons. Oui, mais il partait du plat préparé.
Il a dit du plat préparé.
Oui, c'est ce que j'ai entendu, moi.
Dans le faire.
Oui.
Un plat préparé, expérience artistique, bon, ben, elle saura choisir un plat en fonction de ce qu'elle sait faire.
Exactement, en fonction de ses méthodes et en fonction de ce qu'elle a.
L'inspiration, elle va.
L'inspiration aussi.
Elle va choisir une sauce adaptée.
Exactement.
Un choix créateur.
L'expérience qu'elle a.
Outil, bon, ben, c'est une électrique.
Très bien.
Travail efficacité, bon.
Très bien. L'efficacité est très grande. Le jugement de travail, c'est tout simplement, dans le moment de la cuisson, savoir s'il faut cuire un peu plus, mettre un peu plus de piment ou pas. Oui, c'est ça. Et tout le monde l'utilise. Ça devient l'aliment.
Alors l'agir, activité éthique.
Je comprends qu'il y en a. Mais tiens, l'accueil de ces personnes.
Non, mais même pour le plat.
Mais même les plats, le choix des plats en fonction des goûts de mes invités, ça c'est de la gérer, c'est de l'amour.
Ah. Autrement dit, je sais.
Moi je dirais que l'accueil, c'est à l'égard de l'accueil en premier lieu. Nous avons invité des amis, nous avons invité des personnes que nous voulons connaître, ça c'est de la vie. Créer de nouvelles relations personnelles. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, ça, c'est sûr.
C'est du conseil, ça.
C'est évident, c'est le conseil, ça. Je demanderai conseil pour savoir, je ne veux pas leur faire. J'invite des juifs pratiquants, je ne vais pas leur servir du corps. Voilà, des choses comme ça. Bon, ça, c'est directement l'éthique.
La communauté.
Là, que je veux que mon place pour bien les accueillir. Mais oui, pour bien les accueillir. Et ça mettra tout l'amour, et si je, non, j'invite.
En amour spirituel volontaire, pourtant sur un bien.
Oui, personnel. C'est la personne. Ouais. Ce sont les amis.
Ce sont des amis. Je veux qu'ils soient heureux.
Oui.
Donc je fais ce que j'ai du plaisir.
C'est un plaisir, et que nous nous retrouvons, et que ce soit une soirée.
L'intention,
vraiment.
Qui tend vers la fin.
Oui. C'est une certaine finalité pour moi, accueillir des amis. Donc, ça mobilise un peu toute mon attention.
Je les invite donc à cela. Conseil à l'égard des moyens qui n'aiment pas ça, c'est autre chose.
Oui, c'est son examen de conscience philosophique. Son examen de conscience.
Celui de sa femme. Celui de sa femme.
Oui, c'est évident, c'est un homme.
Choix
des moyens. On a choisi telle ou telle personne. Non, ah, les moyens, pardon, non. Les choix des moyens. Mais avant.
Les choix des moyens, c'est les outils, ça.
Mais non. Avant de choisir, avant d'inviter un certain, parce que vous ne voyez pas l'ordre. On est avant de choisir. On peut inviter telle ou telle personne. On a demandé conseil, qu'est-ce qui vaut mieux ? Elle a parlé à son mari en lui disant, écoute, on va faire cette soirée, qu'est-ce qu'il faut inviter ?
Avec qui je les invite ?
Oui.
Avec qui je les invite ?
Oui, avec qui je les invite ?
Est-ce que je peux
mais tiens, un gros repas, conseil. Mais tiens, et on a demandé à son mari là. Vous voyez, c'est dès que le mari arrive, vous le télescopez.
L'impérium, je programme le four, autrement c'est
rapport. Non, l'impérium. J'envoie les invitations. J'envoie les invitations.
Et je suis poli.
Mais tiens, l'impérium, je passe l'exercice. Si, aussi, il y a tout ça, évidemment. Mais il y a le choix des invitations. Je passe à l'exercice. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais oui, c'est ça qui t'aille. Vous voyez, ça vous donnera une lucidité beaucoup plus grande dans votre vie humaine.
Oui, non, mais moi j'ai des questions à faire. Moi je suis du bâtiment, excusez-moi. Alors, application.
Effectivement. Mais ça n'importe rien, c'est un métier humain.
Non, mais je. Bon, mon métier, mais entre le faire et le faire, c'est quand même pour mal énergie.
C'est ce que je vous ai dit, dans toute action, les deux sont liés. Mais le philosophe distingue les deux. Je comprends. Parce qu'il y a deux finalités différentes. Il y a deux finalités différentes. Mais oui, il y a deux finalités différentes. Il y a la finalité de l'œuvre et il y a la finalité de la présence. Il y a la finalité de l'œuvre et il y a la finalité de l'amour, de présence vis-à-vis de quelqu'un. C'est quand même tout à fait deux choses différentes. Si vous confondez l'ami avec l'œuvre, vous confondez l'ami avec le plat que vous présentez.
C'est finalement construire un immeuble pour bien réussir cet immeuble techniquement. Et de l'autre côté, c'est pour que les gens
l'usage,
soient le plus heureux possible.
L'usage de bâtiment. User ce bâtiment.
Oui, d'accord, mais je veux dire, on a bien les deux choses.
Oui, toujours. Vous avez. Alors, il y a une question, nous n'avons pas le temps de le voir ici. Il y a une question qui est très importante, j'en dirai peut-être un petit mot demain en laissant ça ici.
On a le beau et le bon.
C'est de savoir s'il y a des actes qui sont de pur facere et des actes de pur avion. Et ça, c'est très intéressant. Vous comprenez que c'est important parce que quand vous mobilisez un ouvrier, est-ce que vous pouvez le mobiliser en faisant abstraction de l'agir?
Non.
Non, absolument pas. C'est ça l'importance.
C'est
pour ça que je dis que c'est intéressant.
Pour la compréhension, ce qui convient de dire, c'est que ce découpage de la mécanique qu'on vient de faire, c'est utile pour la compréhension. Bien distinguer.
Exactement, la compréhension.
Les deux choses sont très mélangées.
Tout à fait différent.
Mais c'est si. On cherche le plat de la cuisine qui l'accueille en voulant les mettre
chacun. Mais non, mais écoutez, je fais attention. Je vous ai dit au point de départ, nous faisons une analyse philosophique. Une analyse. Nous analysons nos opérations humaines qui sont toujours impliquées l'une dans l'autre.
Non, on prend pas d'exemple.
D'un côté de la colonne, on dit c'est beau, de l'autre côté, on dit c'est bien.
Voilà, tout à fait. Et ça montre une chose, c'est qu'il n'y a pas d'acte moralement ou psychologiquement neutre. J'ai pas le temps, c'est pour ça que je vous ai donné ça très rapidement, vous comprenez ? Parce qu'il faut aller lentement, ça. Mais je vous donne ça parce que je crois que c'est quelque chose de très important à réfléchir. Ça nous aide énormément à avoir une lucidité beaucoup plus grande dans notre activité humaine, de comprendre les obstacles, parce qu'il y a des obstacles, ça, constamment, donc des déperditions de vitesse, et de comprendre les différents aspects, si vous voulez, du facere qui est ordonné à l'œuvre. Vous voyez, donc c'est quelque chose de très particulier que nous réalisons. Et d'autre côté, c'est la personne humaine.
D'un côté, il y a l'œuvre, et d'un côté, il y a la présence de la personne.
Exactement. Et les deux se tiennent constamment. Vous voyez ?
Alors évidemment, d'un côté, il y a l'efficacité, et de l'autre côté, il y a la...
Il y a l'efficacité ici, et ici, il y a l'amour et la fécondité. Oui. Et c'est ça qui est important. Et je crois que ça, c'est vraiment très important. C'est une chose importante à analyser parce que, de fait, notre complexité humaine ne peut se simplifier que dans la mesure où il y a une certaine lucidité.
Et est-ce qu'il y a un ordre ? Est-ce qu'il y a une colonne qui est première par rapport à l'autre ?
Demain, j'en dirai un mot là-dessus. C'est très important. Et puis, la question aussi, c'est de savoir, y a-t-il des actes du facere qui sont à l'état pur, sans agir. Ou y a-t-il de fait toujours la complexité de l'autre ?
S'il n'y a pas d'intérieur, on ne voit pas
grand-chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est ce qui manque le plus dans le monde d'aujourd'hui.
Donc c'est la première.
C'est ce qui manque le plus. C'est des gens qui ont suffisamment de force de caractère et de tempérament qui sont suffisamment intelligents et qui aiment suffisamment, parce que l'imperium est commandé par tout le monde. Exactement. Et c'est pour ça que je vous dis que lorsque l'imperium n'existe plus, vous avez des ouvriers qui sont mous dans le travail.
Enfin, quand vous dites mous, c'est gentil.
Oui,
pas du tout. Des fois, ils peuvent être hostiles.
Mais alors, ils peuvent avoir un hyperium tout à fait inverse.
Bien sûr.
Ils peuvent avoir un hyperium politisé.
Et
alors, un hyperium politisé fait que le travail, on s'abordera le travail.
Bien sûr, c'est tout à fait logique.
Oui.
On n'a même plus le respect du travail.
Oui. Alors ça, c'est la troisième dimension. Nous l'avons vu que la deuxième. La troisième demain, c'est la coopération. Je comprends, je vous fais avaler des choses qui sont normalement dites lentement, n'est-ce pas, en plusieurs années.
On est doué,
mais comme je crois très intelligent, je peux vous le donner rapidement.
Merci père. Ça passe très bien. Tout à fait d'accord avec vous, d'abord.
Oui, c'est sûr. Mais il vaut mieux le donner comme ça. Parce que de ces choses-là, nous avons tous expérimenté. Le corps, de dominer l'univers, et donc de le façonner. Mais en même temps, elle le fait en tant qu'une personne humaine. Et donc, il y a toujours le lien entre les deux. Le facere, vous voyez, pour le théologien, le facere n'existe pas chez les anges. Il n'y a que l'agir. C'est toute la réalité de notre corps. Et nous sentons très bien, c'est toute la sensibilité qui est impliquée dans le point de vue du travail. C'est tout le milieu qui... Et alors c'est très important parce que ça va, on va le voir tout à l'heure. Le milieu dans lequel nous travaillons est particulièrement important. Tandis que dans l'ordre de l'amour d'amitié, nous faisons un milieu. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui me semble très important à saisir. C'est que un grand vivant dans une forêt crée autour de lui tout un petit univers, au point de vue aussi bien végétatif qu'au point de vue animal. Et le petit vivant a très peur des premières gelées où il faut une cloche au-dessus de la tête, comme petit vivant. C'est du reste très intéressant de voir cela. Le grand vivant, ben, il ne se pose jamais le problème de l'adaptation. Parce qu'il adapte les gens autour de lui. Il les attire. Tandis que le petit vivant se pose perpétuellement le problème de l'adaptation. Bien, je crois qu'en nous, il y a deux aspects, je les prends les deux. Dans la gibe, quand il y a un amour d'amitié très fort, on ne se pose pas le problème de l'adaptation. Dans un foyer, dans une amitié, il y a quelque chose de fort, parce que l'amour met en nous un potentiel de vie, puisqu'on est source de vie dans l'amour, qui est extrêmement fort. Tandis que dans la gibe, on est en face de quelque chose qui ne vient pas de nous, la matière hein, sur laquelle nous travaillons. On est beaucoup plus dépendant du contexte. Autrement dit, il y a ici une dépendance beaucoup plus grande du milieu. Ça va jouer énormément pour tout ce que nous allons voir après. Et au contraire, ici, nous formons le milieu. On est source du milieu. On est beaucoup moins du côté du facheré. Beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que le facheré passe à travers notre corps. Et notre corps, on est partie de l'univers. Et ça, on n'y pense pas assez. Et alors, c'est constamment ces choses-là qu'on ne voit pas, suffisamment. Vous voyez, si on fait cette analyse, c'est pour essayer de comprendre comment dans notre vie, à la fois, nous sommes autonomes et nous sommes dépendants. Il y a un facteur d'autonomie et de dépendance. Quelqu'un qui ne verrait que le facteur par où il est autonome et par où il domine devient un tyran. On peut tyranniser les gens assez facilement, aussi bien dans l'ordre de la gibe que dans l'ordre du facheré. Parce qu'on ne voit pas assez où on est dépendant, où on dépend du milieu. Et de temps en temps, c'est l'inverse. Ce qui fait que des gens qui commandent sont incapables de pouvoir appliquer certaines choses, de pouvoir l'imperium, parce que c'est ce que nous allons voir, c'est que de fait, l'imperium, qui est ce moment si important du commandement, c'est là où vous comprenez ce qu'est l'autorité. J'en ai pas parlé hier, mais nous allons en parler maintenant tout de suite. Alors, vous voyez ça, c'est simplement cette petite remarque, parce que je crois que c'est important. C'est important de voir que le vivant est dépendant d'un milieu et le vivant fait son milieu. Où est-il dépendant? Où est-il celui qui est source? Dans notre vie, nous pouvons comprendre que nous sommes source de notre milieu par l'amour d'amitié. On crée un milieu d'accueil. L'exemple qu'on donnait hier, on invite des élèves. Quand on invite des amis, on ne va pas se poser, oui, on se pose des problèmes, mais on les invite. Tandis qu'au contraire, dans l'agir, on est dépendant du milieu. Vous voyez, comme un artiste, moi ça m'a toujours semblé très très fort, chez les artistes qui sont très sensibles, les vrais artistes, comme ils sont dépendants du milieu. Certains artistes disent, ah, dans certains milieux, je ne peux rien faire, j'ai plus d'inspiration. Il y a d'un certain milieu où, au fond, nous pouvons travailler facilement, et d'autres milieux, ne pouvons pas travailler. C'est très curieux, ça. On a besoin de ça. Et au fond, chacun d'entre nous, si on ne fait pas attention à ça, on va tarir notre inspiration. Notre inspiration est dépendante d'un milieu. Et nous devons être attentifs à maintenir en nous cette espèce de source, alors que c'est très fragile. Le fat chéré passe à travers toute notre sensibilité, à travers tout notre corps. Ici, au contraire, l'agir, c'est beaucoup plus notre âme, voyez, c'est pour ça que j'ai essayé de comprendre ce point de départ. Le philosophe est très attentif au point de départ. Le point de départ du Facere, c'est l'expérience artistique par où je suis dépendant de l'univers. Je suis dans l'univers par l'expérience artistique. Tandis qu'au contraire, dans l'amour d'amitié, ah, le point de départ, c'est moi, je suis source. Tout de suite. Et la source est intérieure. Alors vous avez ce point de vue, je ne l'ai pas souligné, mais ce serait un des points de vue qui serait très intéressant, parce qu'alors là, on rejoindrait des quantités de données psychologiques. Comment, de fait, le travail implique toujours ce contact avec l'univers. On est dans l'univers et on transforme l'univers. Et donc on est parti et en même temps on est capable de le transformer. Tandis qu'au contraire, dans l'agir, on est soi-même source. Vous voyez ? En très gros, comprenez, hein ? Ici, le point de vue du corps. Ici, le point de vue de l'âme. Alors, il ne faut pas séparer, surtout pas. Mais il faut quand même voir qu'il y a toujours en nous ces deux aspects du vivant. Nous sommes un vivant dans la complexité du vivant à cause de notre corps. Et nous sommes dans l'unité du vivant grâce à notre âme. L'unité profonde de notre vie, elle vient de notre amour. Et la complexité de notre vie, elle vient du travail. Le travail est nécessairement complexe. C'est pour ça que la division du travail, c'est fatal. Ça ne peut pas être autrement. Le travail est complexe. Il va impliquer toujours une complexité. Vous voyez, c'est le leurre de vouloir supprimer la division du travail. Il y aura toujours un travail intellectuel, il y aura toujours un travail... Mais ça ne peut pas être autrement. Et le travail, parce qu'il est justement dans l'univers. Et l'univers est complexe. Tandis qu'au contraire, notre âme veut l'unité profonde dans l'amour. Alors il y a les deux mouvements, vous voyez, c'est très curieux. Bon, ceci c'est une petite remarque qui, je crois, permet de mieux saisir. Il y aurait une seconde remarque, et je ne vais pas ça, la faire, ce sont des nota bene, hein, pour donner à réfléchir, donner à penser. L'autre remarque, ce serait très intéressant de voir que cette analyse que nous faisons est sous-tendue par un point de vue psychologique. Mais que le psychologue, comme tel, ne distingue pas le Facere et l'agir. Vous n'avez pas la psychologie du Facere et la psychologie de l'agir. Il ne faut jamais oublier ça. Le psychologue donne le comportement humain et la complexité des deux. Et alors, il y aurait une lumière à donner sur les données psychologiques qui serait extrêmement intéressante. Ça n'a pas été fait. Du moins, je ne connais pas. C'est peut-être, ça a peut-être été fait, mais je ne connais pas dans mes... Donner une lumière philosophique sur la donnée psychologique, vous voyez, ce que j'avais essayé très rapidement de vous montrer, par exemple, pour le donner de la personne. Ça, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on est en face d'une synthèse. Alors, on voit les trois dimensions de la personne, et alors, la lumière philosophique montre qu'au point de vue psychologique, on ne pouvait pas donner la dimension de l'amour, la dimension de la finalité. Le psychologue ne demandait pas au psychologue ce qu'il ne peut pas donner. Le psychologue ne peut pas donner la dimension de la finalité. Il ne faut pas lui demander. Il faut lui demander le comportement et l'analyse du comportement. Et l'analyse des réactions profondes du concupiscible et de l'irascible, puisque c'est au niveau de l'affectivité. La psychologie s'est très développée du côté de l'affectivité. Piaget a essayé de développer le point de vue psychologique de la connaissance, mais c'est beaucoup moins développé. Ordinairement, la psychologie, c'est le développement de notre affectivité. Et c'est le développement des lois du concupiscible et de l'irascible. Au fond, en gros, c'est cela. Et c'est pour ça que l'analyse des 11 passions serait très intéressante pour permettre une analyse plus profonde des données psychologiques. Ici, je voudrais souligner que les données psychologiques qui sont sous-jacentes à cette analyse, les données psychologiques ne font pas l'analyse du Facere et de l'agir. Et ça fait des confusions constantes. Parce que les qualités dans un homme de l'agir et les qualités du Facere sont différentes. Il y a des hommes qui sont des hommes de la réalisation. Et il y a des hommes qui sont des hommes de la communion. C'est quand même très différent. Oui.
Ça se fait pas au niveau des bouquins, hein, mais c'est pas mal de se faire leur entreprise.
Oui, ben oui.
Par exemple, moi j'y travaille déjà plus.
Oui, mais vous êtes une exception.
Oui,
Vous avez développé, c'est intéressant.
Non, mais c'est toute une réflexion qu'on fait, on en parlera tout à l'heure, justement, au niveau des carrières des gens, cette notion du Thatcherisme, justement, on parle de ça.
Oui, c'est ça qui est important. Non, mais...
Parce que c'est une conséquence directe.
Conséquence directe, mais je crois que c'est parce que vous avez fait un peu de philosophie, et non pas, c'est pas uniquement la psychologie. Vous voyez, là, on est d'accord. Les données psychologiques ne peuvent pas donner ça. Et alors, je crois que c'est très important, parce que là, on remonte aux sources, vous comprenez. Et on voit que la psychologie, elle, fait la complexité de cela. Je pourrais étudier toute la psychologie en voyant ces différents moments. Hein. Ces différents moments sont unifiés dans la vie, c'est le dynamisme de notre vie, c'est bien évident. Mais il y a quand même des qualités différentes au niveau de l'agir et du Thatcherais. Et chacun d'entre nous, c'est ça qui est extrêmement curieux, notre développement s'est fait à cause de nos capacités naturelles, à cause de notre éducation, à cause de... Il y a des éducations qui développent beaucoup l'agir et très peu le Thatcherais. Il y a des éducations qui développent beaucoup plus. Et alors, on voit très bien, il y a un homme qui ne serait que du côté du Thatcherais deviendrait un monstre. Il y a un homme qui serait du côté de l'agir, ce serait un monstre aussi. Vrai. Il y a deux monstres.
Je vais vous poser la question, Pierre, justement. Est-ce qu'il n'y a pas actuellement des gens qui sont des monstres, vous m'avez dit, hein, je prends votre terme, du côté du Thatcherais, et d'autres qui sont... Oui,
tout à fait.
Et alors, alors, voyez, qu'est-ce qui fait que...
La philosophie de Sartre, je reprends les idéologies qu'on avait dites. Que fait la philosophie de Sartre? Eh bien, la philosophie de Sartre a complètement oublié ce point de vue-là. Et tout est vu de ce côté-ci. La fameuse liberté de Sartre.